7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
Contre le déficit, la rigueur. Gabriel Attal martèle le mot. Le Premier ministre a des pistes pour faire des économies, notamment une nouvelle réforme de l'assurance chômage. L'armée française s'entraîne pour contrer les cyberattaques. Notre reporter est monté dans un blindé pour le constater. Et puis à la fin de ce journal, on va découvrir l'exposition consacrée à Brancusi à Beaubourg.
Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar. Et puis ce matin à 8h15, nous retrouverons Éric Roussel, historien. Il publie une biographie de Georges Pompidou, mise à jour à quelques jours des 50 ans de la disparition de ce président que les Français aimaient beaucoup. Le gouvernement veut répondre au déficit par la rigueur.
Comment soigner des finances publiques aussi malades? Un déficit à 5,5% du PIB en 2023, ça demande une réaction. Le gouvernement est réuni en séminaire à Matignon ce matin autour de la question du travail. Semaine de 4 jours, désmicardisation et le travail pour combler le déficit. Gabriel Attal doit détailler son plan d'économie ce soir aux 20h de TF1, Augustin Lefebvre.
Oui, il n'a pas hésité à citer ce mot de rigueur à l'Assemblée hier. Et cela pourrait concerner les dépenses sociales avec une nouvelle réforme. Forme de l'assurance chômage, la troisième en 5 ans, une réduction de la durée d'indemnisation est supposée inciter les chômeurs à retrouver un emploi, une vision critiquée par l'ensemble des syndicats. Autre piste, une limitation de la hausse des arrêts maladie, une priorité pour Bruno Le Maire. Hier, le ministre de l'Économie a appelé à une prise de conscience collective. Il donne un mois à toutes les agences de l'État pour proposer des coupes dans leur budget. Il a aussi mentionné les collectivités locales qui ont immédiatement protesté contre toute mise à contribution. Bruno Le Maire exclut en revanche une hausse des impôts alors que l'idée est discutée dans la majorité. Après les 10 milliards annoncés mi-février, il va falloir trouver des économies supplémentaires cette année et au moins 20 milliards dans le budget 2025. Après les annonces du Premier ministre ce soir, les présidents de groupes politiques au Parlement sont invités à Bercy demain pour partager leurs idées d'économie.
Merci Augustin Lefebvre. Au cours du séminaire gouvernemental de ce matin, la question de la semaine de 4 jours, les fonctionnaires des ministères vont tester. Alors je dis la semaine de 4 jours, mais c'est plutôt la semaine en 4 jours parce qu'il n'y a pas de réduction du temps de travail. C'est ce qui se passe dans les services de la métropole de Lyon depuis 6 mois. Zoé Pallier, vous êtes allée voir les employés et le bilan est plutôt encourageant.
Elle avance d'un pas vif, dossier sous le bras et sourire aux lèvres.
Je reviens d'un week-end de 3 jours.
Clémentine Leterrier est cadre à la métropole de Lyon. Une semaine sur 2, elle ne travaille que du lundi au jeudi.
J'ai mon agenda sous les yeux. Donc effectivement, là, je suis à 32 heures la semaine de 4 jours et à 40 heures la semaine de 5 jours.
Est-ce que vous sentez une différence quand vous ne travaillez que 4 jours?
Oui, j'arrive le lundi matin beaucoup plus productive parce que mieux reposée. Sur la préparation de certaines réunions, là, en 15 minutes, je fais ce que j'aurais pu mettre une heure à faire.
Félix Wilmet, lui, est ingénieur, chef de projet. À 34 ans, il ne travaille plus aucun vendredi.
J'ai divisé par à peu près 4 mon volume de RTT, et en sachant que personnellement, j'avais du mal à poser tous nos congés. Donc globalement, je m'y retrouve tout à fait. Je serais très malheureux si je revenais en arrière.
Dans une enquête menée en interne, 89% des chefs d'équipe estiment que cette nouvelle organisation n'a pas d'effet négatif. Elle nous rend même plus attractifs, souligne Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon.
Entre décembre 2022 et décembre 2023, on a 25% de plus de candidats sur les postes ouverts par la métropole de Lyon, et le fait de recruter plus facilement fait que nos postes sont occupés et donc que le service public est mieux rendu.
Mais cette semaine de 4 jours sans réduction du temps de travail ne concerne pas tous les postes. Plus les tâches sont pénibles physiquement, comme la collecte de déchets, plus il est compliqué d'étirer les journées.
L'herbe sera plus verte ailleurs, plus verte que dans l'Union européenne. Des semaines de mobilisation des agriculteurs et les 27 États membres entérinent une réforme de la politique agricole commune, une révision qui rogne sur les ambitions environnementales. Quand les catastrophes climatiques coûtent cher, très cher, 6,5 milliards d'euros, c'est ce qu'elles ont coûté aux assureurs en 2023. Il y a eu beaucoup de phénomènes météo extrêmes comme les tempêtes Kiaran et Domingos. Les assureurs s'inquiètent du changement d'échelle dans le coût du risque climatique.
Et vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. L'armée française fait des tests de cybersécurité.
Que fait-on en cas de cyberattaque sur le terrain? Il y a de plus en plus d'exemples d'attaques numériques sur les sites de l'État. Alors l'armée doit savoir réagir. Voilà pourquoi cette semaine ont lieu les exercices DEFNET, des simulations grandeur nature, piratage, contre-piratage sur le site de Satory en région parisienne. Notre reporter Eric Koch y a assisté.
Nous sommes à bord d'un blindé Griffon de l'armée de terre, un véritable concentré de technologie, ce qui le rend efficace mais aussi vulnérable aux cyberattaques. La route est dégagée lorsque soudain...
Qu'est-ce qui se passe?
Plus de direction assistée, plus d'accélérateur, un message comme quoi on a été hacké.
Tous les voyants d'alerte clignotent. Les tablettes de contrôle sont hors service.
Ici Rouge 10, mon véhicule est immobilisé, on a perdu le contrôle.
En situation réelle, il faut appliquer le protocole élaboré par l'armée en collaboration avec KNDS, la société qui a conçu le Griffon. Des procédures et des gestes réflexes appris par cœur, comme l'explique le commandant Yves.
Une attaque cyber, elle peut continuer à aller compromettre d'autres systèmes. Donc le premier acte qu'il va réaliser, c'est tout de suite de débrancher.
Il faut ensuite sécuriser la zone jusqu'à l'arrivée du groupe d'intervention cyber, des experts capables de repérer et contrer les menaces. Ce scénario peut se produire en opération à l'étranger comme sur notre territoire et il faut s'y préparer. En vue des JO notamment, le général Aymeric Bonnemaison, chef du commandement cyber.
Vous avez des hackers, vous avez des services de renseignement étrangers, vous avez des États, les gens qui voudraient soit se faire de la publicité pour les cybercriminels, soit dégrader l'image de la France. Donc le panel est très vaste pour les JO comme ailleurs.
Durant les Jeux, le commandement de la cyberdéfense ne sera pas en première ligne, mais sera une force d'appui de l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information.
Et on vient de l'apprendre, c'est le jardin des Tuileries qui a été choisi pour accueillir la flamme olympique. C'est donc dans ce jardin des Tuileries que se trouvera la vasque pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il est considéré comme le père de la sculpture moderne, Constantin Brancusi. Le Centre Pompidou lui consacre une exposition exceptionnelle à partir d'aujourd'hui avec 400 œuvres. Héloïse Weiss nous emmène à Beaubourg.
Ici, l'ombre côtoie la lumière. Trois immenses coques blancs d'abord, puis une plongée plus sombre. La scénographie des œuvres serpente, trace des courbes à l'image du mouvement que Brancusi traduisait dans ses œuvres. Valérie Lotte est la co-commissaire de l'exposition.
Brancusi ne jetait rien. Ça fait beaucoup d'archives qui permettent de montrer comment il a réalisé ses premières œuvres en Roumanie, son amitié avec Modigliani et leur travail sur les sculptures.
Voilà le monde de Brancusi. Saisir son œuvre, c'est découvrir ses compagnonnages et ses inspirations. Les plâtres et les bronzes font face au marbre de Rodin. À côté, deux amants taillés dans un seul bloc de pierre, c'est le baiser. On voit l'artiste évoluer, trouver son langage jusqu'à ses formes lisses et épurées comme avec cette série de cinq visages.
Là, vous voyez effectivement comment il fait évoluer le motif. Dans les deux premières versions de Mademoiselle Pogani, on voit les yeux qui sont très ronds en amande et petit à petit, les yeux se transforment en traits et le visage prend un aspect presque animal, on dirait presque un oiseau. Enfin.
L'exposition est foisonnante et enchante, mais ne cherchez pas de formule, disait l'artiste roumain. C'est de la joie pure que je vous donne.
La mort d'un autre sculpteur, Richard Serra, disparaît à 85 ans. L'Américain était notamment connu pour ses plaques d'acier monumentales. Il les avait exposées dans le monde entier.
Virginie, je vous dis à demain. À suivre l'éditorial de Guillaume Tabar avec Le Figaro. L'exécutif va-t-il consentir des hausses d'impôts à sa majorité, la Macronie, au pied du mur fiscal? Et puis l'invité de 8h15 aujourd'hui, c'est l'historien Éric Roussel. Il vient de nous parler de Georges Pompidou, dont il est un des meilleurs biographes radio classique.